Bonsoir, chers auditeurs. Merci d'être sur la radio Guinée Sud. Nous sommes aujourd'hui 2 novembre 2019. Comme prévu, nous sommes ensemble pour parler de l'actualité de la Guinée. Et ceux qui souhaitent intervenir, comme d'habitude, merci d'appuyer. Alors, je disais que nous sommes ensemble pour parler de l'actualité guinéenne. Ceux qui souhaitent participer au débat, merci d'appuyer sur les boutons *61*61. Nous savons tous que l'actualité guinéenne est dominée par le troisième mandat, les manifestations, contre-manifestations. Quelle est votre lecture de la situation et qu'est-ce que vous proposez pour que la Guinée décolle enfin? Donc, pour commencer, je vais aller du côté de Paris, donner la parole à Monsieur Mohamed Lamine Keïta, à qui je dis bonsoir.
Bonsoir.
Oui.
Bonsoir, Marie. Merci de donner cet honneur pour ouvrir cette émission et sur le thème actualité. Bon, toujours c'est la même chose, hein. C'est-à-dire que, comme tu viens de le dire, il s'agit de manifestations et curieusement contre-manifestations, c'est ce qui est très étonnant. Et lors de la dernière émission, j'avais fait ma proposition de sortie de crise. J'ai proposé ce qui me semblait être le plus judicieux, le plus sage de la part du président de la République, c'est-à-dire que se prononcer purement et simplement qu'il veuille un nouvel mandat, et plutôt une nouvelle constitution ou pas, il n'a qu'à rassurer les Guinéens, tout le peuple guinéen, comme quoi il va respecter déjà jusqu'au bout les termes de la constitution sur la base de laquelle il a été élu. Bon, on a lu tout sur les réseaux sociaux et un certain ministre qui disait que cette constitution était un chiffon, ce qui est extrêmement grave en termes de déclaration, mais il y a eu des gens qui ont pu le répondre. Maintenant, pour revenir sur la contre-manifestation, moi je pense déjà le principe même d'organiser une réaction à la manifestation réussie du 24 dernier du FNDC est en soi la preuve de l'échec du RPG en tant que parti au pouvoir et de l'échec de la gouvernance du professeur. Et vous imaginez, le FNDC, c'est un collectif qui s'est formé à l'occasion de cette situation. Eh bien, un parti au pouvoir qui descend maintenant pour essayer de se comparer, cette fois-ci pas, au principal parti d'opposition, mais à un collectif d'hommes intègres et qui ont décidé de s'opposer à toute velléité de tripatriage de notre constitution. Alors, organiser une contre-manifestation, on a vu ce qui s'est passé. Ça a été un échec et je pense qu'il y a une double lecture de cela. Premièrement, on a vu que s'ils sont accrochés à un problème de référendum, ce qui a été fait pour tenter de réussir cette manifestation, c'est-à-dire obliger les gens de l'administration de venir sur le terrain, fermer les hôpitaux, fermer beaucoup de services, fermer les écoles et les universités, pour obliger même les petits-enfants à venir sur le terrain, distribuer de l'argent. Les gens se bagarraient même après la manifestation parce qu'ils n'ont pas reçu l'argent qu'on leur avait promis. C'est comme ça qu'ils organisent les élections. Et c'est pour cette raison qu'ils sont accrochés. Ils disent que bon, ok, vous n'êtes pas d'accord, nous on est d'accord, bon, allons au référendum. S'ils n'avaient pas la certitude de pouvoir tripatrier, eh bien, je pense que ça n'en serait pas à ce niveau-là. Donc, pour l'instant, je suis sûr et certain qu'il y a plein de gens qui ont envie d'intervenir et qui ont certainement une autre lecture de la chose. Pour l'instant, moi, je considère que le principe même d'organiser une contre-manifestation est un échec. C'est sur le plan stratégique, sur le plan de la gouvernance, c'est la meilleure preuve de l'échec total. Voilà, je vous remercie.
Voilà, Monsieur Keïta, depuis Paris, merci. Je rappelle, ceux qui souhaitent intervenir, d'appuyer sur les boutons *61*61. Monsieur Keïta, Moi, j'ai une autre lecture de la situation actuelle. J'ai l'impression que nous sommes tous embarqués dans un bateau. Nous sommes en train de naviguer à vue. Nous sommes en train d'accompagner le pouvoir à atteindre son but. Je m'explique. On est en train de nous distraire avec cette histoire de troisième mandat. Moi, ma vision des choses, le président Alpha Condé ne va pas se prononcer maintenant. Ceux qui pensaient que jeudi, lorsqu'il est arrivé, il allait se prononcer, ont eu tort, ne savent pas analyser. Se prononcer sur quoi? À partir du moment où, pour l'instant, personne ne connaît le contenu de cette constitution. Comment peut-il demander en ce moment-là aux Guinéens d'aller au référendum? On va au référendum sur la base de quelque chose. On consulte et puis on met à la disposition du peuple le contenu du projet de constitution ou de nouvelle constitution ou d'amendement, tout ce que vous voulez. Mais à partir du moment où ce n'est pas le cas, je vous assure que nous sommes pour le moment en train d'accompagner le pouvoir. Pendant ce temps, le pays est complètement bloqué. Les ministres sont partout en campagne, les hauts responsables en campagne, et la population est prise pour cible. Donc, je pense que nous devons revoir nos copies pour ne pas rester sur cette histoire de troisième mandat qui fait l'affaire du président Alpha Condé. Je vais vous dire, même un fou a des moments de lucidité. Admettons même que nous étions déjà au courant de ce qui se trouve dans cette constitution-là. Je vous assure qu'il n'allait pas se prononcer là-dessus. Parce qu'il sait que les Guinéens sont divisés là-dessus, au-delà de la propagande faite de part et d'autre. Je dis encore, même un fou a des moments de lucidité pour comprendre la situation. La tension qu'il y a en ce moment, se prononcer en faveur, c'est-à-dire, il faut faire la part des choses. Le référendum en tant que tel n'est pas le problème. Le problème, ce que les gens ne veulent pas, comme moi, je ne suis pas du FNDC, mais je soutiens le FNDC. Et ce qu'il faut aussi signaler au passage, c'est que les détracteurs sont en train de dire le FNDC, c'est l'opposition. Mais c'est comme si on disait aussi, le pouvoir, c'est que le RPG arc-en-ciel. Vous comprenez? Regardez l'erreur stratégique, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Cette contre-manifestation du pouvoir, avec tout ce que nous savons, pendant ce temps, la communauté internationale nous observe. Chers auditeurs, ceux qui souhaitent intervenir, n'hésitez pas à appuyer sur les boutons star 61, étoile 61, parce que nous avons changé l'horaire, donc il y en a qui sont d'autres ont des difficultés de connexion qui sont en train de m'appeler aussi, c'est pas évident. Donc je disais, mon frère, je sais pas par rapport à ce que je viens de dire, quelle est votre réaction, et d'autres qui souhaitent réagir là-dessus, n'hésitez pas à demander la parole. Il y a monsieur, avant de revenir à vous, si vous permettez, il y a quelqu'un qui a demandé la parole, qui n'est pas encore intervenu depuis New York, à qui je dis bonsoir. Monsieur Ousmane Sissoko, depuis New Jersey, bonsoir.
Bonsoir, madame Yomono.
Bonsoir, monsieur Sissoko.
Je salue le frère qui vient, monsieur Keta, qui vient de parler. Je salue tous les auditeurs sur la radio. Et merci de m'avoir donné la parole. En ce qui concerne la crise guinéenne, vous savez, madame, on n'est pas contre le président Alpha Condé. C'est quelqu'un qui s'est battu lorsqu'il était dans l'opposition. On veut l'aider à sortir par la grande porte. Madame, moi, je me souviens très, très bien, lorsque le président Alpha Condé, il était dans l'opposition, à l'époque, le temps de l'ancien Conté, il y avait une chaîne africaine qu'on appelait Télé-Sud. Et il venait, l'opposant Alpha Condé venait intervenir là-bas. Parce qu'on savait, à l'époque, RTG, il ne pouvait pas parler là-bas dans le temps de l'ancien Conté. La parole, on ne pouvait pas lui donner la parole là-bas. Mais il venait sur cette antenne, c'était une chaîne africaine qu'on appelle Télé-Sud. Il y avait des journalistes congolais qui l'intervivaient. Tout ce qu'il disait, il avait dit dans cette interview là-bas qu'il n'est pas contre l'ancien Conté, mais il est contre le système de l'ancien Conté. Il a même dit que le pouvoir de l'ancien Conté, c'est pas le pouvoir des chouchous. Par preuve, si vous voulez comprendre, allez dans les quartiers de Bolobiné ou de Corentine, vous allez voir, les chouchous vivent très mal. Il a dit ça. Et à l'époque, ça c'était l'an 2006, si je me souviens très bien, la grève des enfants, des manifestations, il y a eu 300 personnes guinéennes qui ont perdu leur vie. Et il a dénoncé le gouvernement de l'ancien Conté. Il a dénoncé le cri de Bangoura, Faux de Bangoura et autres. Il a cité ces noms-là. Donc, on croit à ce monsieur, s'il allait venir au pouvoir, il allait amener la démocratie en Guinée. Donc, tout ce qu'il s'est battu contre la mauvaise gouvernance, contre l'ancien Conté. Mais après avoir gagné le pouvoir, il s'est retrouvé avec les mêmes éléments. Il est allé prendre les mêmes éléments pour gouverner. Donc c'est ça qu'on a vu. Et puis il a dit que lui, il allait être Mandela de la Guinée. Et le Nelson Mandela, il a fait qu'un seul mandat et il est parti. Il a dit qu'il allait être Obama de la Guinée. Obama, nous savons la constitution américaine ici. Vous venez, vous faites des mandats, vous partez. Et c'est fini. La vie continue. Donc c'est ça que nous voulons. Et avec son âge, il a plus de 90 ans. Donc, même si on le donnait, accordait une autre 5 ans encore, moi je pense qu'il ne pouvait pas tenir. Et franchement, il pouvait sortir par la grande porte. On voit des anciens présidents, madame, quand ils ne sont pas à l'exercice de leurs fonctions. Mais ils tiennent des conférences dans les grandes organisations. Il peut gagner $1 million américains, $400 000. On voit Obama, il tient des conférences dans les différentes universités à travers le monde. Donc, c'est ça qu'on veut. Mais la crise, là, qui a créé la crise? C'est la mouvance. C'est à eux de nous faire sortir cette crise. Madame, on ne parle pas du développement. Notre pays, l'économie est à terre actuellement. Là. Regardez la monnaie guinéenne. Une monnaie qui est en train de perdre sa valeur. En 86, un dollar, c'était 360 000 francs guinéens. Et le même dollar aujourd'hui, madame, c'est 10 000 francs. Donc, 100 dollars, ça va jusqu'à 1 million de francs guinéens. Donc, on doit parler du développement. Les problèmes politiques, là, il faut mettre fin à cela maintenant pour parler du développement. Regardez l'arrivée du professeur Alpha Condé et la réception qu'on a faite. Et on voit des enfants qui sortent pour aller accueillir un président de la République. Mais les enfants là qui sont là, ils ne peuvent plus rattraper le temps qu'ils ont perdu pour aller accueillir un président de la République. L'année dernière, madame, l'examen, le baccalauréat, il y a eu 76% d'échecs. C'est comme le gouvernement a financé l'enseignement pour rien, quoi. C'était l'échec total, madame. Voilà dans la situation dans laquelle on est en train de vivre. Donc ça, c'est grave pour un pays. Et l'avenir de la Guinée, ce sont les enfants. Donc, comme je viens de dire, la solution est dans la main du président. C'est lui qui doit nous sortir, parce que c'est lui qui a créé le problème. Donc, je reste dans le débat.
Merci beaucoup. Vous donnez la chance aux autres de parler. Merci beaucoup. Les États-Unis et ceux qui souhaitent intervenir, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton étoile 61 star 61. Je reviens donc à M. Keïta. Vous avez la parole.
Merci Marie. Bon, pour rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire, je suis parfaitement d'accord avec toi. Et j'apprécie aussi l'intervention de M. Tshisekedi qui vient de parler. Ousmane Tshisekedi, comme je l'ai dit la dernière fois, il n'était pas là. Je disais que le seul responsable de la crise actuelle, c'est le président de la République.
Monsieur Tshisekedi était avec nous samedi dernier.
Ah d'accord. Donc, je suis parfaitement d'accord avec lui. Et je suis d'accord avec toi aussi sur ce que tu as dit. C'est une façon de distraire. Et c'est ce qui a été toujours fait. Si je disais, le samedi passé, j'ai dit, mais organiser un référendum, le principe peut lui permettre de proposer. Mais est-ce que c'est la priorité aujourd'hui? Donc, et tout le monde sait que ce n'est pas la priorité. Dans un pays où les élections communales qui ont été organisées il y a un an, on n'a pas pu installer entièrement d'abord les conseillers communaux. Les élections législatives, la date normale est dépassée. Ils ont été obligés de proroger le mandat des députés. Et la date à laquelle on doit organiser les présidentielles avance aussi à grands pas. Eh bien, quand tu n'as pas organisé lors du premier mandat, ni au début de ton deuxième mandat, un référendum, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi les gens peuvent mourir, le pays peut être bloqué, absolument pour cela. Ça, deux choses. Premièrement, ce que tu viens de dire, histoire de créer des troubles, créer des crises, crises et crises, et pour permettre le glissement encore des présidentielles. À la Kabila, ça se voit de tout le monde. Deuxièmement, et vous comprenez, c'est une façon aussi de refuser de refuser d'organiser les élections, même les présidentielles. Mais il y a quelqu'un qui a dit une fois, et puis je suis en train de réfléchir à ce que l'intéressé a dit, quand le Premier ministre Kassori a été nommé, avant sa nomination, les gens du RPG ont réagi, ils ont dit que normalement c'est le troisième, quatrième ou troisième Premier ministre, ils auraient souhaité maintenant que celui-ci vienne du RPG. Eh bien, comme le président n'a trouvé personne au niveau du RPG, eh bien Kassori s'est débarrassé de son parti, il est rentré dans le RPG parce que c'est Kassori que le président voulait. En réalité, donc, on peut imaginer aujourd'hui que tout ce qui est en train de se passer actuellement se situe dans ce calcul Kassori comme de fin, provoquer une crise. Si le référendum marche, tant mieux, Kassori aura le temps de se préparer pour le remplacer. Si le référendum ne marche pas, on passe au glissement. Vous comprenez? On fait un an, 2 ans, le temps de tenter de voir si Kassori peut avoir ses marques.
Monsieur
La
Keta,
difficulté
moi
au
je
niveau de
pense
Kassori.
plutôt que l'intention du chef de l'État, c'est le glissement. Je ne crois pas qu'il ait l'intention de proposer un autre mandat en sa faveur, parce que là-dessus, je sais qu'il sait très bien que ça, il risque de rencontrer beaucoup de difficultés, étant donné que tout le monde est divisé et qu'il est rappelé à l'ordre par la communauté internationale et la CEDEAO. Et les organisations non gouvernementales aussi, vous comprenez? Vous avez parlé de glissement de calendrier, je pense que c'est plutôt cela. Vous savez, avant qu'il parte pour les États-Unis, il a fait une déclaration quand il a instruit le Premier ministre de consulter les différents acteurs sur les questions nationales, mais tout le monde sait que ça tournait autour de la Constitution. C'était de la distraction, ça se donne. Et puis, il a demandé au Premier ministre de tout mettre en œuvre pour que les élections législatives aient lieu cette année. C'était de la distraction également, sachant que la CENI est tenue de respecter un calendrier. Ils ont bien dit la dernière fois, ils sont pour la plupart, que ce soit les acteurs nationaux ou les représentants de ceci, de cela, de l'extérieur, il y a beaucoup d'acteurs là-dedans. Vous avez vu le cirque la dernière fois, la CENI avec le représentant de l'OIF, puis l'OIF qui dit, bon, ils ont vu, comment dirais-je, le rapport, c'est très bien, mais sauf que le temps un parti ne permettait pas de convoquer le scrutin législatif, puisque c'était prévu pour le 28 décembre. Voilà.
Bon, c'est une réalité. Et tu sais, au départ, il ne pouvait pas rejeter d'emblée la possibilité de s'octroyer un troisième mandat. Mais il sait que, c'est-à-dire qu'envisager ça, les difficultés, il connaît les difficultés qui allaient se dresser devant sur sa route. Mais le problème, aujourd'hui, si tu réfléchis un tout petit peu, quand Kassori a été désigné comme Premier ministre, vu les conditions dans lesquelles il est arrivé, à ce poste-là, il est arrivé au niveau du RPG. Et vu le parcours de Kassori, le langage que Kassori lui-même tenait, tout dernièrement, au moment, lors de la campagne de 2015, les ténors du RPG ont juré absolument qu'il est hors de question qu'eux, ils s'alignent, qu'ils soutiennent Kassori comme dauphin ou quoi que ce soit. Pour qu'il soit Premier ministre, il faut absolument qu'il rejoigne le RPG. Il a rejoint le RPG. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils se sont rendus compte que Kassori n'a pas pu être adopté à 100% par le RPG. Et s'il n'a pas été adopté à 100% par le RPG, eh bien, Alors, la deuxième solution, c'est le glissement maintenant des échéances électorales. Faire à la Kabila. Ça, c'est déjà enclenché. Ça, c'est parti. C'est-à-dire qu'il est impossible maintenant, même les élections présidentielles, de les organiser en 2020. Le glissement, il est parti là. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, partis politiques, société civile, tout le monde est focalisé sur l'affaire de nouvelle constitution de troisième mandat. Et justement, comme tu l'as dit au début, on est en train d'accompagner justement la mouvance dans cette crise, dans cette crise-là. Et puis, les députés ne demanderont pas mieux de rester encore un autre mandat comme député. Et les ministres ne demanderont pas mieux, surtout les ténors, les gens et les intouchables, de continuer à rester pour faire continuer à faire leurs affaires. Donc la crise, elle a été réfléchie et elle a été provoquée. Alors, vu la situation dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui, Ousmane vient de dire, il a retracé un peu le parcours de Alpha. Personne, qui d'entre nous pouvait imaginer en 2009, en 2010, que le langage même qu'on tient aujourd'hui à la RTG, les discours qu'on tient aujourd'hui à la RTG, qu'on pouvait tenir, qui se tenaient au sein de l'ancien Akonté, qu'on pouvait tenir les mêmes discours aujourd'hui. C'est impossible. Personne, on ne pouvait pas imaginer. C'est-à-dire que Alpha ne réussisse pas à envoyer du courant en Guinée. Qui ne réussisse même pas à faire.
Juste une seconde, s'il vous plaît. Je vais demander à ceux qui souhaitent intervenir d'appuyer sur les boutons *61*61. Nous sommes donc en train d'échanger sur l'actualité guinéenne. Voilà, allez-y, s'il vous plaît, mon frère.
Donc, ce qui était attendu, le grand espoir au niveau de la présidence de Alpha d'abord, surtout au premier mandat, c'était la mise en place de toutes les institutions, du renforcement de toutes les institutions, du renforcement de la démocratie, la gouvernance politique, la gouvernance sociale, la gouvernance administrative. S'il réussissait ça, parce que ce sont les bases, l'indépendance d'Adji, ce sont les bases pour que les investisseurs puissent venir. Il a fait tout le premier mandat en train de détruire les institutions. Les observateurs sont là, étrangers sont là, les investisseurs sont en train d'observer cette pagaille-là. Il a tout fait, personne n'est venu. Aujourd'hui, il s'est orienté vers les pays qui ne sont pas regardants dans le domaine de la gouvernance, c'est-à-dire la Russie, la Chine et la Turquie. Mais ces gens-là ont des domaines d'intervention bien définis. Le reste, si tu ne travailles pas avec l'Occident, le pays aujourd'hui est sous perfusion. C'est des petits financements juste pour maintenir le minimum. L'échec, il est total. Et le président semble être complètement embourbé. Il est pris maintenant au cou. Il n'a absolument aucune solution. Mais comment quitter le pouvoir? Sortir par la grande porte, comme Ousmane le disait, cette grande porte, je crois qu'elle n'existe plus. Elle est déjà fermée. Parce que quand il y a, avec tout ce qu'il y a eu comme mort, avec tout ce qu'il y a eu comme gabegie financière, tout ce qu'il y a eu comme destruction, moi je pense qu'il est extrêmement difficile maintenant de sortir par une grande porte. Ce n'est pas possible. Peut-être une petite porte.
Monsieur Keita, je vais vous dire une chose. Vous avez dû entendre parler comme moi de manigances qui seraient en cours pour éliminer X ou Y. Ça, pour moi, c'est un détail. Je pense que ce n'est pas la préoccupation des Guinéens de savoir qui va éliminer qui. Pour le moment, ce que nous critiquons, c'est que le pays est bloqué et que nous devons revoir, nous devons réexaminer la situation pour ne pas rester focalisés sur cette histoire de troisième mandat qui est orchestrée pour permettre au pouvoir non seulement d'atteindre son objectif de ne pas respecter les échéances électorales, mais de se remplir les poches. Ils sont en train de dilapider l'argent public, la corruption, puisque nous avons en place des députés qui ne sont plus d'actualité. Leur mandat est terminé, mais pour le moment, ce sont ces députés-là qui sont en train de signer n'importe quoi, tout ce qu'on leur... Donc il n'y a pas réellement de contre-pouvoir en ce moment. Le pouvoir, tout le pouvoir est entre les mains du chef de l'État. Il en fait ce qu'il veut. Il joue avec les nerfs de tout le monde. Il a critiqué pendant qu'il était opposant le pouvoir qui était un pouvoir sous un pouvoir ethnique. Mais lui, il est en train de prouver qu'il est là que pour le RPG. La preuve, vous avez écouté les remerciements d'hier. le chef de l'État félicite, remercie les militantes, militants, sympathisantes et sympathisants. Vous comprenez? Même oui. Pas un minimum d'analyse pour dire nous allons quand même masquer la chose pour remercier les citoyens de Conakry, même si nous savons qu'il y a des gens qui sont venus d'un peu partout. Vous comprenez un peu? C'est un peu comme si c'était un jeu d'enfant. Et quand on interpelle le pouvoir par rapport à la gestion actuelle qui n'est pas du goût de tout le monde, ceux qui sont autour se mettent à insulter les autres. Ce n'est pas ça la démocratie. Comme M. Sissoko l'a dit tout à l'heure, interpeller le président de la République de Guinée ne veut pas dire que c'est lui que nous attaquons. Ce n'est pas sa personne physique. Il est à la tête d'une institution. Donc il doit respecter le peuple de Guinée. C'est le pouvoir du peuple qui lui a été confié, qui gère au nom du peuple. Donc il ne doit pas faire n'importe quoi. Donc n'importe quel citoyen peut l'interpeller sur la mauvaise gouvernance. La preuve aujourd'hui, le pays manque de tout. C'est ça? Le pays manque de tout, on nous distrait, on est tout le temps là en train de parler du troisième mandat ou quatrième pouvoir, comme Sanko l'a dit. Mais en attendant, eux sont en train de sortir leurs enfants, les mettre à l'abri, prendre tous ceux qui sont en train de prendre. Il n'y a personne pour leur dire non, arrêtez. Ils prennent tous ceux qui sont en train de prendre là. Qu'est-ce qui va rester quand Alpha Condé va finir son pouvoir en 2020? Celui qui va venir, il va raser le sol.
Ouais, s'il te plaît, Marie.
Oui.
Ah, allô?
Oui.
Oui, voilà. Bon, j'ai envie juste de deux mots par rapport à ce que tu viens de dire là, ce qui concerne le glissement du calendrier électoral. Tu sais, à ce niveau, moi je pense que même l'opposition a sa grande part de responsabilité dans ça. Parce que si tu remontes un tout petit peu au niveau de après les élections communales, pour que les élections communales se tiennent d'abord, l'opposition elle-même a accepté de s'éloigner, de s'éloigner du code électoral, de s'éloigner de la loi et de la constitution, des termes de la constitution pour signer des accords. C'est-à-dire que tu accompagnes quelqu'un qui a le pouvoir. Et celui qui a le pouvoir, il a les décrets, il a l'argent pour détourner n'importe qui. Toi, la seule chose que tu peux avoir peut-être, c'est de proposer des postes de député ou des postes de conseil communal à tel ou tel individu. Donc, quand tu acceptes de t'éloigner de la loi qui est censée te protéger pour signer des accords avec ce gouvernement-là, eh bien, si ça se retourne contre toi, eh bien, tu t'en prendras qu'à toi-même. L'opposition a accompagné pas à pas le pouvoir jusqu'à ce niveau aujourd'hui. Vous comprenez? Avant même que ce problème de constitution ne se présente, on a vu comment ils se sont acheminés. Ils ont passé d'accord en accord. Au lieu de... Alpha avait une qualité, j'ai l'impression que l'opposition n'a pas prêter attention à ça. Autant de l'ancien Akonti. Il a refusé toute négociation. Et c'est ce qui a fait qu'en 2010, au deuxième tour, même ceux qui ne l'aimaient pas, lui portaient confiance. Ils disent que non, ce dernier, c'est ce monsieur-là qu'il faut pour la Guinée. Quelqu'un d'intransigeant. Il n'a accepté aucun compromis. Rien, absolument. Ce qu'il voulait, il voulait ça. Et quand il est arrivé, mais je suis dans l'opposition aussi, tu veux t'éloigner de ce que la loi a prévu pour ça, eh bien, je refuse. Mais si tu l'accompagnes, eh bien, on a fini maintenant par le ragaillasse. Est-ce que tu vois? Donc, en ce qui concerne le glissement du calendrier, les responsabilités sont partagées. Évidemment, la gestion du pays, ça revient au président de la République. C'est le bilan, ça revient au président de la République. Ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas l'opposition qu'on va demander. Est-ce que tu as réussi à faire des routes, du courant ou de ce qui là? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dis bien, ce qu'on attendait du président de la République, c'est d'avoir de réussir à instaurer une véritable démocratie. Et c'est à ce niveau qu'on a complètement échoué. Et ça, et au niveau du parti, dans le fonctionnement même du RPG, il n'y a pas de démocratie. Mais on a fabriqué, nous étions tous des responsables du RPG. Il est impossible de faire le moindre reproche à Alpha. Dès que tu fais la moindre critique de tout le temps de l'opposition, on dit que tu ne l'aimes pas. Et c'est ce qui a continué. Au jour d'aujourd'hui, le RPG fait les frais. Le RPG, c'est une coquille vide. Les gens, les ténors du RPG sont en train de se débattre. Il y a des clans, des gens qu'ils appellent les militants de la 25e heure, qui sont devenus plus puissants, et ils ne veulent pas les voir. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se... Toute la mamaya qui est en train d'être organisée là, pratiquement, elle est pilotée et financée par ces militants de la 25e heure. Le discours, hier, le remerciement auquel tu fais allusion, Marie, j'ose donner ma tête à couper que c'est quelque chose, Alpha ne sait même pas quand est-ce que ça a été fait. Les chargés, comme ils le disent là à la présidente, ils ont écrit ce qu'ils ont voulu et ils ont donné, histoire de sauver la face. Sinon, un président de la République, il s'adresse au peuple. Si tu veux remercier, tu remercies le peuple. On sait très bien, un président de la République, comme je l'ai dit tantôt, quand il est élu par la majorité, la majorité
du peuple. Mais dans ce cas-là, la situation est grave. S'il ne maîtrise pas la situation, s'il y a des choses qui l'échappent, pourtant il est très informé. Qui ne dit mot comme ça? S'il n'a pas réagi à ce message-là qui ne s'adresse qu'aux RPGistes, ça veut dire qu'il consent.
Non, je ne dis pas. Non, je ne dis pas qu'il est parti.
Vous ne le discutez pas.
Non. Le fait même, Marie, d'accepter de se faire accueillir par une contre-manifestation, moi, à sa place, je n'aurais pas accepté. C'est pas possible. Même si le FNDC réunit toute la Guinée à Conakry en une journée. C'est normal. Vous vous opposez à ça? D'accord. Si la majorité m'a élu en 2015, il se pourrait qu'en 2019, que cette majorité se soit effritée. C'est tout à fait normal, la démocratie. La popularité qu'on a au premier mandat, on ne peut pas forcément avoir la même popularité au deuxième mandat. Ce n'est pas donné à n'importe qui, comme à Nelson Mandela, comme à Obama, et comme à Bill Clinton, en allant même, c'est-à-dire qu'en terminant leur deuxième mandat, pour Mandela, c'était son premier mandat, ils étaient populaires, personne ne pouvait les battre.
D'accord, mais je vous laisse encore quelques secondes, puis ensuite je vais prendre d'autres pour revenir vers vous encore, s'il vous plaît.
D'accord.
Non, allez-y, terminez votre analyse.
Oh, ok, d'accord. Donc, je disais, le principe même, le fait même d'accepter, qu'il accepte de parce qu'il a été informé qu'ils vont organiser. Mais je dis, non, vous organisez ça pourquoi? Jamais. S'il réussit, c'est que c'est vous qui avez échoué. S'il réussit, c'est que vous m'avez menti. C'est comme ça. Moi, président, c'est comme ça que c'est ce que je vais dire. Si ces gens-là réussissent, s'ils ont réussi à mobiliser tout le monde, c'est que vous m'avez menti. Et si vous m'avez menti, c'est moi qui dois rendre des comptes. En ce moment, je réfléchis. Ce que vous avez vu dans le rapport de consultation, il est faux. Donc, j'observe. Mais une contre-manifestation, je ne peux pas la cautionner. Je rentre tranquillement. C'est là où je n'arrive pas à comprendre que j'arrive, Marie, que j'arrive ici dans un pays comme la France. J'arrive ici à l'âge de 17-18 ans. Je fais 50 ans ici. Eh bien, un président de la République, pour le gouvernement ici, peut sortir 1000 fois et rentrer 1000 fois. On ne sait même pas quand est-ce qu'ils sont partis, quand est-ce qu'ils sont revenus. On les voit à l'extérieur, à travers la télévision, comme quoi il a fait un déplacement.
Il y a M. Tshoko qui souhaite réagir à ce que vous avez dit. Alors, oui. M. comment il s'appelle, Aboubakar Camara, je vais d'abord ouvrir son micro avant de revenir vers vous, M. Sissoko, s'il vous plaît. Aboubakar Camara, depuis New York, bonsoir. Tanamo.
Bonsoir, madame. Comment allez-vous?
Bien, et vous?
Alhamdoulilah. Madame, je reviens un peu plus tard, là.
D'accord, je vais donc prendre M. Ousmane Sissoko. Il y a d'autres, donc n'hésitez pas à appuyer sur les boutons. *61. M. Sissoko qui souhaite certainement dire un mot sur l'intervention de M. Keita. Allez-y, s'il vous plaît. Allô? M. Sissoko? Allô? M. Sissoko, votre micro est ouvert. Hein?
Allô, madame?
Oui.
Ah. Bonsoir encore. Je salue M. Keita. Je suis entièrement d'accord avec M. Keita. Ce que j'ai dit avant, ça c'était le devoir de mémoire. Parce que c'est une réalité. Le président Alpha Condé, lorsqu'il était dans l'opposition, il était le vrai démocrate.
Il parlait, il dénonçait l'ancien Conté, la mauvaise gouvernance de l'ancien Conté. Il avait dit que le pouvoir de l'ancien Conté n'était pas un pouvoir de chouchou, mais que son pouvoir c'était un pouvoir de clans, des petits groupes qui sont là, ils ont pris le pays en otage. Donc lui il allait se battre pour la démocratie. Comme mon frère Keta vient de dire, nous on pensait que le professeur Alpha Condé, lorsqu'il avait le pouvoir, il allait instaurer une véritable démocratie. Et il allait faire son mandat et partir. C'est ça qu'on souhaitait. Mais regardez son gouvernement. Mais ce sont les mêmes éléments qui nous ont fatigués hier avec l'ancien Conté. Je peux même dire les pouvoirs de l'ancien Conté. Il est allé ramasser et les mettre dans le gouvernement. Quel résultat qu'on peut obtenir avec ces ministres-là? Mais regardez sur laquelle l'État et notre économie se trouvent. La situation économique guinéenne se trouve. Un pays très riche, on est le troisième pays producteur de bauxite, mais on n'arrive pas à s'en sortir. On n'a pas de route, on n'a pas d'eau, on a moins d'électricité. Et tous ces milliards-là que ce gouvernement a réussi. Madame, je vous dis une vérité. L'argent que ce gouvernement a réussi, Sékou Touré n'a pas réussi ça, l'ancien Conté n'a pas gagné ça. Avec le résultat médiocre. Le résultat qui est médiocre. Tantôt on dit nous sommes le troisième pays producteur de bauxite, mais quand vous regardez l'économie guinéenne, c'est insignifiant. On a un budget de 16 000 milliards, madame. Ça correspond à presque 2 milliards de dollars américains. Ce budget-là, qu'est-ce que ça va faire avec une population de 12 millions d'habitants? Et puis, le budget de la Guinée, c'est un budget de fonctionnement, ce n'est même pas un budget de développement. Vous voyez, si on veut faire des routes, il faut aller auprès des unions européennes ou la Banque africaine de développement. On ne peut même pas financer nos projets. C'est ça la réalité. Il faut que les gens comprennent cela. Donc, il faut qu'ils arrivent à faire son mandat et finir et partir. Et nous voulons une véritable démocratie. Donc, c'est ça. On n'est pas contre le professeur Alpha Condé lui-même, mais on veut qu'il sorte par la grande porte, comme j'ai dit avant. C'est tout ce qu'on veut. Si on veut la démocratie, il faut qu'on respecte. Il faut que madame, on arrive à respecter le nombre, la limitation de mandat en Guinée. Parce qu'on connaît les conséquences. Lorsque Sékou Touré est mort au pouvoir, qu'est-ce qu'on a entendu? L'armée, l'ancien Conté est venu, il a pris le pouvoir. Lui, il est resté pendant 24 ans. Qu'est-ce qui est arrivé? On a vu Dadis encore. Vous voyez, pour enlever Dadis au pouvoir, il a fallu 150 morts de Guinéens. Donc, il faut qu'on arrive à accepter le nombre
paraît,
de
Guinéens. Il paraît, ça c'est à confirmer. Hein. Il ne faut pas qu'on continue
ouais, de nous ouais, c'est ça. Ce qui a été dit voilà. Dans la presse. Donc, c'est ça que je suis en train de dire. Mais pourquoi je dis cela? C'est pour faire comprendre que on ne doit pas accepter quelqu'un qui va mourir au pouvoir. C'est pas normal, c'est pas bon pour le pays. Ça ne nous arrange pas. Et parce qu'on a vu les conséquences, les deux conséquences de Sékou Touré et de l'ancien Conté. Si on maintient le président Alpha Condé, il va se maintenir au pouvoir. Celui qui va venir, il va faire la même chose. Donc c'est ça qu'on veut éviter. Donc c'est ça que j'ai voulu ajouter, madame. Je reste dans le débat. Merci
okay.
beaucoup.
Merci à vous, chers auditeurs, ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir, merci d'appuyer sur le bouton star 61 étoile 61. Alors, 614, les quatre derniers chiffres, 33-55. Bonsoir, madame, monsieur.
Bonsoir, Allô, madame Diané, vous m'entendez?
Oui, monsieur Kaba, comment allez-vous depuis... Ohio,
ça. Oui, Columbus, Ohio.
Oui, allez-y, s'il vous plaît.
Bon, j'ai pris le temps en marche. Je ne sais pas bon, s'il y a un sujet sur la table ou bien...
Je vais vous faire le briefing. Nous sommes en train de parler de l'actualité guinéenne qui tourne autour du troisième mandat. Nous avons également des manifestations et des contre-manifestations. Donc, nous sommes en train de recueillir les différents avis. Est-ce qu'il ne faut pas réexaminer la situation actuelle puisque l'administration est bloquée? rien ne marche et pendant ce temps, la population guinéenne est prise pour cible. Leurs besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits et nous sommes en train de naviguer à vue. Donc c'est sur ça que chacun est en train de donner son point de vue, si vous avez quelque chose à dire là-dessus et des propositions également.
Oui, merci madame, merci pour ce briefing. Et moi, je dirais tout simplement que la situation politique actuelle du pays est très inquiétante. Et s'il faut se dire la vérité, c'est que la population se trouve aujourd'hui dans un piège politico-ethnocentrique qui ne profite qu'à la classe politique guinéenne. Il faut dire que aujourd'hui, Seydou Dalein Diallo et M. Alpha Condé ont pris le pays en otage. Force est de reconnaître qu'aujourd'hui, les manifestations et contre-manifestations dont vous avez fait allusion ne sont pas le résultat d'une certaine conviction politique de la population, mais plutôt d'une certaine prise de position ethnocentrique par rapport à la situation politique actuelle. Et le grand perdant est la population elle-même, parce que comme je l'ai dit au départ, ça ne profite qu'à la classe politique. Aujourd'hui, et si vous prenez la situation économique du pays, ceux de la mouvance présidentielle se vantent en faisant une comparaison entre le pouvoir actuel et le pouvoir de l'ancienne Conté, chose que moi je trouve illogique. Dans la mesure où, si nous voulons aller de l'avant, il faut plutôt faire la comparaison entre le pouvoir actuel et les autres pouvoirs de la sous-région qui sont en train d'implanter la démocratie dans leurs pays respectifs aujourd'hui. Je parle du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Ghana, etc., etc. Plutôt que de faire la comparaison entre le régime actuel et ces régimes autour de nous, nous nous contentons de faire une simple comparaison entre le régime de l'Alpha Condé ou de Dadis à celui de Alpha Condé. Moi, je trouve cela illogique. Et deuxièmement, aujourd'hui, la population guinéenne a besoin d'une certaine éducation. Parce que l'ethnocentrisme a atteint des proportions qu'aujourd'hui et on refuse de voir la réalité d'en face. Qu'est-ce que je veux dire? Au lieu d'apprécier un régime par ses réalisations qui profitent à toute la population, c'est-à-dire les infrastructures de base, parce que les routes, l'eau, l'électricité, les hôpitaux, les universités, lorsque ces infrastructures de base sont réalisées dans le pays, ça ne profite pas à une seule ethnie ou à un seul groupe d'hommes. Ça profite à toute la Guinée. Mais malheureusement, ce n'est pas de cette façon que les Guinéens font le jugement aujourd'hui. Ce n'est pas de cette façon que l'on essaye d'apprécier ou de critiquer les œuvres du pouvoir en place sur le terrain. Mais plutôt, on a fait ceci dans cette région, on n'a pas fait cela dans cette autre région. ou bien ce sont les membres de cette ethnie qui sont majoritaires dans le gouvernement, cela prouve ceci ou cela. Ce sont des analyses subjectives plutôt que les gens font aujourd'hui en ne prenant pas en compte leurs propres intérêts. Parce que ce sont les infrastructures de base qui profitent à toute la population qui doit être l'objet, ou si vous voulez, l'objectif même de débats politiques. Jugeons les gouvernements en place, ou les différents gouvernements successifs, par la réalisation des infrastructures de base, mais pas parce que on a construit ici 10 logements sociaux, on a fait là 22 kilomètres de route, etc., etc., qui peuvent nous permettre, ou bien on a donné de l'électricité à toute la Guinée. Et même cela, c'est une très bonne chose, objectivement, mais ce n'est pas fait dans un sens de développement harmonieux dans le pays. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, quand vous prenez l'électrification du pays, vous vous rendrez compte que ce n'est pas fait de façon harmonieuse. C'est-à-dire que ce sont certaines régions seulement qui sont desservies, pendant que d'autres, en 10 ans, n'ont absolument rien. Or, si le projet était axé de façon objective sur un développement harmonieux du pays, il y a aujourd'hui des micro-barrages qui pouvaient être réalisés à l'intérieur du pays, qui pourraient plutôt servir le pays que d'attendre soit pitié et les interconnexions là pour desservir ces régions. Parce que il faut se dire la vérité.
Justement, monsieur Keita, votre micro est ouvert si vous voulez échanger avec lui, poser des questions, vice-versa. Monsieur Kaba, justement, par rapport à l'électrification, vous savez que le chinois est mort, hein, c'est pour cela que de l'autre côté, bon, il n'y a pas encore d'électricité, ça c'est une parenthèse. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que vous proposez pour que tout le pays soit électrifié? Parce que là, comme l'avait dit, pourquoi attendre les grands barrages d'État soit petit pour donner l'électricité à tout le monde et même en vendre, pendant qu'on n'en a même pas, on nous parle déjà de vendre. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Moi, je vais vous dire juste, si vous permettez, on a vu quelques Guinéens à l'intérieur du pays qui ont pu électrifier leur village. Pourquoi le pouvoir n'a pas approché ces gens-là, leur donner des moyens avec les quelques chiffres? À l'intérieur du pays, ces personnes-là pouvaient déjà, dans leur localité et environnement, donner l'électricité, et ainsi de suite, ça pouvait répondre à un certain nombre de problèmes. C'était ça juste ma remarque. Donc, si vous avez quelque chose à dire là-dessus, M. Keita, votre micro est ouvert. Et les autres, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton étoile 6-1. Allez-y, s'il vous plaît, monsieur Kaba, depuis.
Madame, moi, je dirais tout simplement que...
Allô, M. Kaba?
Oui.
Il y a M. Keita qui s'adresse à vous, là.
Oui, M. Keita, allez-y, voilà. S'il vous plaît.
Oui, oui, M. Kaba, il y a été. Voilà.
Donc,
voilà, c'est très passionnant et ce que vous êtes en train de développer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique pour développer un pays. Le fondamental, c'est la bonne gouvernance.
Oui.
Et cette bonne gouvernance, comme je l'ai dit, vous avez parlé de l'énergie tout à l'heure. Vous avez parfaitement raison. Il est impossible de développer un pays sans énergie. Mais les gens, la population analphabète a l'impression, on le fait croire, que quand on parle d'énergie, il s'agit juste du courant qu'on lance à 18 heures et qu'on éteint à 0 heures. Partout, si tout le pays, si toutes les préfectures ont le courant chacune à 18h et ça s'en va à 0h ou même à 6h du matin et c'est terminé. Non, il faut l'énergie qui est capable de développer l'industrie. Sinon, le pays ne peut pas se développer. Et à Conakry, même à Conakry aujourd'hui, où il y a Garassiri et Kalita et Kosla dont on parle, vous comprenez, à longueur de journée, le courant s'en va, on ne peut pas construire une usine sérieuse si on n'a pas de grands groupes électrogènes à côté. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est vous dire que, je ne vais pas vous tenir très longtemps, beaucoup, Alpha nourrissait beaucoup d'espoir. Parce qu'on se disait qu'il connaît mieux l'Occident, il connaît donc comment développer un pays que quelqu'un qui n'est jamais sorti de la Guinée, comme par exemple l'Antoine Conté. Mais quand il est arrivé, il s'est complètement éloigné des fondamentaux, de ce qu'il faut pour que ceux qui sont capables de développer un pays viennent, les investisseurs. Les investisseurs ne viennent pas parce que vous avez l'habitude de prendre un café ensemble. Les investisseurs ne viennent pas parce que vous avez l'habitude de vous rencontrer dans des conférences ensemble où vous appartenez aux mêmes organismes. Est-ce que vous comprenez? Ils viennent, ils ne peuvent débloquer l'argent pour l'investir chez toi que quand ils se sentent en sécurité. Et cette sécurité, c'est la justice, c'est la bonne gouvernance politique, c'est la bonne gouvernance économique, la bonne gouvernance administrative, sociale, ainsi de suite. Et là, à ce niveau, il faut reconnaître que même ce qui est possible aujourd'hui, la gabegie qui est possible à Guinée aujourd'hui, ne l'était pas au temps de l'Ancien Apartheid. Encore moins au temps de Sékou. Et je suis parfaitement d'accord avec M. Kaba, c'est-à-dire que, bon, évidemment, ça c'est de bonne guerre. Les médiocres, dès que tu les critiques, ils trouvent le moyen de dire que les ministres qui ont terrassé le pays là, vous comprenez, on ne va jamais leur donner le pouvoir. Mais alors qu'il y a d'autres ministres avec lesquels ils avaient terrassé le régime de l'Ancien Apartheid, qui sont aujourd'hui les véritables décideurs de ce coup-là. C'est ridicule. Et un chef d'État, on ne peut pas le comparer à un premier ministre. On a vu que les premiers ministres au temps de l'Ancien Apartheid n'avaient pas la main libre. Mais, avec Alpha aussi, aucun de ces premiers ministres n'a eu la main libre. Peut-être Kassori un peu plus. Mais le reste, on les a vus. Finalement, c'était des gens qui étaient là, des observateurs, jusqu'à leur départ. Impossible, même s'ils pilotaient des dialogues, jusqu'à un certain niveau, quand ils viennent déposer les conclusions de ce dialogue-là, on met dans le tiroir, ils ne réagissent pas. C'est comme ça que ça s'est passé avec Mohamed Fofana, avec Yula, ainsi de suite, avec le ministre de l'Intérieur, Alassane Condé. Je m'excuse de vous avoir interrompu aussi longtemps.
Non, non, pas de souci. Alors, Monsieur Kaba, je vous redonne la parole. Les autres, n'hésitez pas du tout. Allez-y, s'il vous plaît.
Merci infiniment, Monsieur Keita. Et vous avez complètement dépeint la situation. Et comme Madame l'avait demandé auparavant, je crois que nous n'avons pas mis en place, ou le gouvernement n'a pas mis en place une bonne politique énergétique du pays qui pourrait permettre de diversifier les sources d'énergie.
La production.
La production énergétique. Vous savez, aujourd'hui, tout est orienté vers la production énergétique à partir des barrages hydroélectriques. Mais il ne faut pas se tromper qu'aujourd'hui, il y a d'autres sources d'énergie qui peuvent être exploitées en Guinée à moindre coût, et qui, telles que l'énergie éolienne ou l'énergie solaire, dans certaines régions de la Guinée, qui n'auront pas besoin de ce coût élevé des interconnexions ou du temps que la réalisation des barrages hydroélectriques va prendre pour que ces régions soient desservies. Et essayez de vous informer auprès des spécialistes, des experts en la matière. Ça, c'est une information que moi, j'ai reçue à partir des experts même qui travaillent sur notre production énergétique aujourd'hui. Madame, les interconnexions que nous voulons réaliser pour desservir la Guinée à partir de Swapiti et puis les pays limitrophes là, le coût de cela est 3 ou 4 fois supérieur au coût de réalisation de 3 ou 4 micro-barrages dans les différentes régions naturelles. Donc, si vous voudriez être pragmatique, alors la question qu'on se pose, pourquoi pas cela? Ou bien, quand vous prenez l'énergie solaire ou éolienne, il y a des régions aujourd'hui, telles que les Kundara et autres là, qui sont très très propices pour la production de ce genre d'énergie. Alors pourquoi cela n'a pas été tenté? Ou bien même à Tigiri. Ces régions-là peuvent abriter des champs éoliens ou des champs solaires qui pourraient ravitailler beaucoup de parties de la Guinée. N'oublions pas que tout près de chez nous, renseignez-vous très bien au Sénégal, le Sénégal est en train d'expérimenter ça aujourd'hui. Un champ éolien qui va desservir pas mal de régions du Sénégal. Donc, encore, voilà pourquoi je dis que sûrement, et concentrer tout sur l'énergie hydroélectrique n'est pas une bonne politique énergétique pour le pays. Et comme madame m'avait demandé, en fin de compte, bon, c'était qui, c'est mon point de vue sur la partie énergétique. La politique énergétique, il faut diversifier les sources d'énergie, la production énergétique, et puis décentraliser cette production. Et maintenant, sur le plan politique, aujourd'hui, comme je l'ai dit auparavant, le pays se trouve aujourd'hui pris en otage par la classe politique et essentiellement deux leaders politiques. Le président de la République.
Monsieur Kaba, si vous permettez, je vais prendre deux personnes, ensuite revenir vers vous, parce que vous avez dit des choses tellement pertinentes que même moi j'ai envie de rebondir, mais je vais d'abord prendre ceux qui ne sont pas encore intervenus, et puis revenir vers vous, s'il vous plaît. Alors, je vais du côté de Paris ouvrir le micro de monsieur Ibrahim Traoré, à qui je dis bonsoir.
Oui, bonsoir.
Oui. Alors, nous sommes en train de parler de l'actualité guinéenne qui tourne autour du troisième mandat, des manifestations, contre-manifestations. Et ce qui a été dit dans l'ensemble, c'est que nous sommes en train de tomber dans le piège que nous tend le pouvoir, essayer de nous distraire avec ça pendant ce temps. Le pouvoir est en train de prendre tout ce qu'il a envie de prendre, sans contre-pouvoir. Puisqu'il faut le dire, les députés ne sont plus légitimes, mais ils continuent de signer ce que le pouvoir leur soumet. Ensuite, les échéances électorales ne seront pas respectées, c'est fait à dessein. Et c'est sur ça que nous sommes en train d'échanger. Quelle est votre lecture de la situation et qu'est-ce que vous proposez pour que la situation change et qu'on ne tourne pas en rond? Puisqu'on risque de continuer comme ça, mais pendant ce temps, la population est prise en otage. Allez-y, s'il vous plaît.
Et merci beaucoup, madame. Je viens de prendre au beau milieu le débat, comme vous m'aviez un peu précisé le thème. Les deux prédécesseurs, à savoir M. Keïta et M. Kaba, ils ont dit presque l'essentiel. Mais en ce qui concerne ce que vous avez dit tout de suite, l'opposition est en train de tomber dans le piège. Non, c'est le pouvoir lui-même qui est en train de tomber dans son propre piège, puisqu'il a créé une crise qui risque d'emporter le pouvoir lui-même, puisque tout le monde sait que la crédibilité des chefs d'État aujourd'hui est largement entamée à travers l'Afrique. Lui qui se dit être le chantre de panafricanisme, qui aujourd'hui a des morts sous les bras, qui a des velléités de modification de constitution, qui croit qu'il est le plus malin, le plus rusé, le plus intelligent que tout le monde. Et je crois que s'il ne fait pas attention, cette crise-là risque de l'emporter et de plonger le pays dans une crise indescriptible.
Au conséquent, c'est calculable que Dieu nous en garde, effectivement.
Que Dieu nous en garde, hein, puisque jusqu'à présent, hein, que Dieu nous en garde, puisque moi je croyais qu'à son arrivée de voyage de la Russie, qu'il pouvait au moins faire une déclaration, mais jusqu'à présent, il garde un mutisme coupable. Je ne veux pas parler d'abord de contre-manifestations qui étaient contre-productives. Déjà, il a divisé le pays. Et j'ai suivi une dame aujourd'hui sur Facebook qui dit que bon, ceux qui l'ont suivi, donc ils gouvernent ceci, ceux qui n'ont pas été à sa réception, donc ils ne gouvernent pas ceci. Donc, il a divisé le pays. Ça, ce n'est pas le rôle d'un chef d'État. Et il ne peut y avoir aucun développement sans paix, aucun développement sans la bonne gouvernance. Moi, je crois que le professeur Alpha Condé devrait s'inspirer de ses expériences, comment les pays occidentaux se sont développés. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a raté beaucoup de ses promesses. Moi, je l'ai suivi dans des années. Il avait dit que le modèle de fédéralisme belge ou Pays-Bas était un modèle qu'on pouvait transposer en Guinée. Moi, je l'ai beaucoup apprécié, puisque si les régions sont relativement autonomes, toutes les réalisations peuvent se faire. Mais si une partie de la route se gâte à recourir à Yomou, il faut attendre l'intervention de Conakry pour que ça soit réparé. Et avec tout le temps que cela peut prendre, comment un pays peut se développer avec ça? Si l'autorité qui pouvait réparer tout de suite, il est sur place, il est visible, ça peut se réparer. Bref, le monsieur, c'est un espoir raté, on peut le dire sans risque de se tromper. Aujourd'hui, nous prions tous pour tous ceux qui aiment ce pays, que l'on sorte de cette crise indemne. Donc j'interviendrai, je ne vais pas monopoliser la parole. En tout cas, j'apprécie les deux intervenants, celui qui a parlé de l'électrification éolienne.
Monsieur Momini Kaba depuis Ohio Columbus, et puis Monsieur Mohamed Lamine Keïta également, que vous connaissez.
Voilà.
Et monsieur, d'autres sont intervenus avant votre arrivée, monsieur Ousmane Sissoko également. Toutes les interventions sont pertinentes.
Voilà, exactement, voilà. Donc, franchement, c'est regrettable que nous arrivons là avec toutes les promesses qui ont été tenues, qui ont été faites.
Qui ont été prises, non respectées.
Voilà, donc c'est très grave et voilà. Je suis à le cours de débat. Peut-être que
d'accord, je vais revenir vers vous. Je vais prendre quelqu'un d'autre de Washington. C'est Monsieur Lamine Sununu Kaba depuis Washington. Allez-y, s'il vous plaît. Lamine Sununu Kaba. Alors, je reviens à Monsieur Ousmane qui souhaite rebondir sur ce que vous avez dit. J'ai quelque chose à dire également. Je peux ouvrir deux micros, qu'il y ait des échanges entre vous. Monsieur Sissoko, on avait dit non, mais je peux déborder, il n'y a pas de souci. Même si je ne me sens pas bien, j'ai failli annuler ça pour raison de santé. Mais quand il s'agit de la Guinée, ben, aucun effort n'est de trop. Monsieur Ousmane Sissoko, vous souhaitez rebondir sur tout ce que vous avez entendu là?
Bon, oui, effectivement. Je vous remercie encore, madame, de m'avoir donné la parole. Je salue notre frère Momini Kaba et l'antenne Ah, je voudrais parler un peu aussi sur l'énergie solaire. Vous savez, la gouvernance d'Alpha Condé, c'est un échec. Parce que pourquoi, monsieur, madame, l'argent qui a été donné dans le secteur énergétique, le gouvernement même qui a parlé, ils ont dit, ils ont investi...
Monsieur Sissoko, justement, si vous permettez, justement, pour rester sur ce point, ce que monsieur Moumini Kaba a dit, qu'on peut, comment on appelle, développer d'autres énergies propres, hein, quand il parle d'énergie éolienne et solaire, il s'agit d'énergie propre. Et actuellement, le président guinéen est le représentant de la sous-région dans ce domaine-là.
Le coordinateur de l'énergie solaire, le coordinateur.
Il était ici, il est intervenu par rapport à ça, il est rentré dans un développement ne pas fini, mais il ne donne jamais de résultats, il n'y a pas de bilan. Dans son propre pays, il n'y a pas d'électricité, les vagues quand il intervient dans ce domaine-là, alors que depuis quelques années, c'est lui qui est le représentant des énergies renouvelables dans la région.
Oui, effectivement, vous avez raison, mais... Oui, effectivement. Madame,
en Afrique, pas dans
vous avez parfaitement raison. Il y a quelqu'un qui parle là sur la radio.
Attendez, je vais fermer. C'est pour cela que je ferme le micro. Je vais fermer le micro de la personne. Allez-y, s'il vous plaît.
Voilà, mais voilà, justement, c'est ça que j'ai en train de dire. C'est pourquoi j'ai dit le résultat est médiocre. Pourquoi? Parce que le ministre, le gouvernement même, ils ont venu sur la télé en disant que. Ils ont investi, c'est Magasuba, le ministre des Mines, c'est l'État de Silla. Il a dit qu'il y a 3 milliards qui ont été investis dans le secteur de l'énergie depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé. Et ce qu'on a vu, le résultat est médiocre. Et vous venez de l'appeler, il est le coordinateur de l'énergie renouvelable. Mais rien n'est fait en matière de l'énergie renouvelable, l'énergie solaire qu'on est en train de parler. Quand vous prenez le Sénégal, M. Kaba a rappelé tout de suite, le Sénégal et le Burkina Faso. Le Sénégal, depuis Malick Sall est là, il n'a pas fait le barrage. Le Sénégal et le Burkina Faso, ils ont beaucoup plus d'électricité par rapport à la Guinée. Pourquoi? Parce qu'au Sénégal et le Burkina, ils ont développé l'énergie solaire. Madame, au nord du Sénégal, c'est que M. Kaba est en train de dire là, moi j'ai suivi ça sur le documentaire sur le TV5, le nord du Sénégal, ils ont installé des panneaux solaires. Le Sénégal a beaucoup plus de panneaux. Ils ont développé l'énergie solaire. Le panneau solaire, ils ont installé là-bas. Plus de 75 000 panneaux solaires, ils ont installé au nord du Sénégal. Ça donne beaucoup plus de l'électricité que le barrage. Quand vous demandez même à les gens qui sont experts en matière de l'énergie solaire fournit beaucoup plus d'électricité que le barrage. Et avec le coût. Avec moins de coûts, c'est-à-dire 75 000 panneaux solaires, vous pouvez investir 20 millions de dollars américains, 20 millions d'euros, plus que le balance qu'on peut investir 4 milliards de dollars américains et que ça prend le temps, 4 ans pour finir, et que vous pouvez installer des énergies solaires à moins de coûts et l'installation de l'énergie solaire, ça prend une année. Madame, c'est terminé. Mais c'est ça que Ousmane Kaba a dit. Parce que Ousmane Kaba, n'oublie pas, une autre radio, j'ai écouté Ousmane Kaba lorsqu'elle était auprès d'Alpha Condé, le président Alpha Condé.
C'est lui-même qui a cherché. Oui.
Docteur Ousmane Kaba, effectivement. C'est lui-même qui a trouvé le financement de Kalita. Et dit, pendant 3 mois, il est en train de souffler le président Alpha Condé, derrière qu'il ne voudrait même pas. Donc, par après, il a accepté. Mais il avait dit aussi au président de la République de développer, par exemple, la Haute-Guinée. Quand vous prenez la Haute-Guinée et la forêt, on pouvait développer l'énergie solaire là-bas. Parce que le Garatri, là, toutes ces sources-là, des qualités-là, c'est au niveau de la basse-côte. Ça ne peut pas donner l'électricité au niveau de la Moyenne-Guinée et la Haute-Guinée. Mais quand vous développez l'énergie solaire, vous pouvez donner l'électricité au niveau de la Haute-Guinée et à une grande partie de la forêt. Donc, il avait tous ces projets-là, mais il n'a pas écouté. Il a dit que le président n'a pas écouté. Donc, c'est pourquoi lui-même, c'est à cause de ça, même, ils se sont divorcés. Donc, voilà. Donc, le Burkina Faso n'a pas fait du barrage et le Sénégal n'a pas fait du barrage, mais ils ont beaucoup plus de l'électricité que la Guinée. Déjà, nous, on a déjà fait des barrages. Jusqu'à présent, on n'a pas d'électricité. Donc, Il est le coordinateur de l'énergie renouvelable, mais il ne fait rien dans son pays. C'est ça la réalité. Il tient des conférences, il vient dans les conférences, mais le résultat est là. On n'a pas d'autres études d'énergie que le barrage. Le barrage ne peut que donner seulement le courant à la maison. Même si notre bauxite, on veut transformer notre bauxite. Ce n'est pas l'énergie du barrage qu'on va transformer la bauxite, mais c'est l'énergie du vapeur. Et ça coûte beaucoup cher, on n'a même pas d'argent.
J'ai l'impression que les deux barrages là sont faits plus pour la propagande. Hein. Si vous remarquez bien, avant le deuxième mandat, il a vite fait de lancer Kalesa afin d'avoir ça son actif et séduire les populations. Hein. Et là, si vous voyez qu'il est en train de traîner avec les résultats des consultations ou autres, il veut que Garafiri avance et ça va encore être un autre sujet de propagande. Vous voyez, mais 10 ans pour ça, alors que comme vous l'avez dit, M. Kaba et vous et d'autres, on pouvait aller sur autre chose afin que tout le monde ait l'électricité à moindre coût. On ne peut pas développer un pays, comme M. Keita l'a dit, sans énergie. Et c'est pas seulement de façon ponctuelle comme ça et à tour de rôle. C'est pas ration, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui vous avez, demain à tour de rôle, c'est pas comme ça. Moi j'ai des connaissances à Bokeh qui m'ont dit actuellement nous avons l'électricité à tour de rôle. Vous vous rendez compte? Dans Bokeh, pendant ce temps, les cadres guinéens, les hauts fonctionnaires sont en train d'aller faire ce qu'ils sont en train de faire là-bas pour piller l'économie guinéenne.
Madame, vous avez parfaitement, c'est pas pour couper la parole. Même l'énergie de Dodéric là, vous savez, la grande, le plus grand menace de
mon aujourd'hui. Vous pouvez aller avec Ousmane, hein? Allez-y.
Le plus grand menace d'aujourd'hui, c'est le changement climatique.
Vous pouvez aller avec Ousmane, vous pouvez y aller.
Allô, madame?
Oui, je dis si M. Keita veut échanger avec vous.
Il n'y a pas de problème.
Oui.
Donc, si vous voulez. Oui, oui.
Oui, monsieur Sitoko.
Oui, je suis là.
Oui, je vous suis de façon très, très intéressée. Vous êtes sur la même longueur d'onde que monsieur Kaba. C'est vrai que l'idéal aurait été qu'on puisse diversifier. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas une question de volonté. Il n'y a pas de baguette magique. Cela suppose des investisseurs. Et ces investisseurs ne vont pas venir parce que tout simplement les Guinéens sont accueillants. Les investisseurs ne peuvent venir que quand ils savent que leur investissement sera en sécurité. Et dès le départ, nous avons raté. Imaginez, rappelez-vous que quand Alpha a été investi au pouvoir, sa première année c'était en 2011. De 2011, les 3 années qui ont suivi, c'était des tueries, c'était des manifestations, c'était des anti-gangs et autres qui étaient dans les rues, étaient tout le temps noires. La semaine était divisée en deux. 2-3 jours de tranquillité et 2-3 jours de manifestations. Et qui a provoqué tout ça? Et bien, c'est Alpha lui-même. Parce que c'est lui qui a refusé d'aller aux élections législatives en fonction du fichier sur la base duquel il a été élu. Alors qu'il avait signé les accords de Ouagadou comme quoi quiconque allait gagner les présidentielles devrait organiser les élections législatives dans les 6 mois au maximum. Ce qu'il a voulu refuser et ce qui a amené l'opposition sur le terrain. Et tant qu'il n'y a pas de stabilité dans ton pays, eh bien les investisseurs ne viendront pas. Je disais la semaine dernière, j'ai dit, mais attendez, qui a besoin de tranquillité dans le pays plus que le président de la République? C'est lui qui a besoin de rassurer les investisseurs. Donc, la diversification de l'énergie suppose des investisseurs. Ces investisseurs ne peuvent venir que quand ils sont rassurés. La différence entre la Guinée et le Burkina, la Guinée et le Sénégal, c'est quoi? En Guinée, il y a tellement de possibilités d'énergie, de barrages hydroélectriques qui n'existent ni au Sénégal, ni au Burkina Faso. Donc, ce qui existe chez eux, c'est ce qui existe un peu partout, c'est le soleil et le vent. Donc, ils ont exploité ça. Et quelles sont les conditions qu'ils ont créées, que nous, on n'a pas créées? Eh bien, c'est une gouvernance meilleure. Je ne dis pas que leur gouvernance, elle est parfaite. Mais tout le monde sait que le Sénégal est 10 fois plus crédible que la Guinée. La Côte d'Ivoire est 10 fois plus crédible que la Guinée. Le Burkina Faso est 10 fois... Même le Mali est plus crédible que la Guinée. Est-ce que vous voyez? Donc, allez au Mali, regardez les routes, toutes les frontières guinéennes, même la Sierra Leone, monsieur Ousmane. Quand vous quittez Koya aujourd'hui pour aller vers Porcaria, vous avez l'impression que vous allez dans un tunnel. C'est-à-dire que c'est... Mais arriver à la frontière, c'est le goudron jusqu'à Freetown. Vous allez à partir de Koundara pour aller vers Dakar, c'est des bus avec climatisés. Il y a des... Si vous allez à Kourema, à partir de Kourema pour rentrer à Bamako, c'est encore pareil. Pourquoi chez nous, on n'a pas pu le faire? Parce que tout simplement, c'est la malgouvernance. Marie vient de dire tout à l'heure...
Monsieur Keta le dit parce qu'il est souvent en Guinée. Hein. Il est revenu il y a que quelques jours. Hein. Il est souvent en Guinée. Voilà, il reste longtemps dans la sous-région.
Marie vient... Non, d'ailleurs, je viens ici juste pour des contrôles sanitaires et je retourne. Donc, Marie vient de dire tout à l'heure que ces barrages-là, c'est comme l'Ansana Conté avec son projet de graphie. C'était purement politique. Un défi a été lancé. Il dit, bon, je vais relever le défi. Même les Mandiens ont contribué au financement de Galafiri. Et donc, Alpha, qui a suivi tout ça, qui a critiqué tout ça, qui a ressorti devant l'opinion nationale et internationale les faiblesses de tout ça, il vient répéter tout ça et en pire. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que moi, je n'arrive même pas à le reconnaître parce que j'ai eu l'avantage et le malheur de travailler avec lui de façon très proche, dans son salon à Paris et dans son salon à Conakry. Mais aujourd'hui, je ne me retrouve pas. C'est-à-dire que des fois, je tourne, je retourne, je dis, non, ce n'est pas la même personne. Donc, il n'y a pas de baguette magique. Sans bonne gouvernance, sans rassurer les investisseurs, absolument, tu n'auras aucune chance. Parce que l'argent qui rentre par les impôts, l'argent qui rentre par la
douane... Monsieur Keta, si vous permettez, avant de revenir à M. Sissoko, les autres, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton star 61 et on va finir très bientôt. Monsieur Moumini Kaba, je vais également ouvrir son micro. Il a dit quelque chose qui est pertinent, sur laquelle j'aimerais qu'on échange un peu. Vous savez,
oui.
À défaut de développer le pays, le pouvoir... Et enfin, tous ces acteurs politiques sont en train d'instrumentaliser les communautés. Il y a du bruit chez Kaba, je vais fermer. Ils sont en train d'instrumentaliser leurs militants en leur disant que du côté du pouvoir, si le pouvoir m'échappe, en fait, vous serez des victimes. Parce que ceux d'en face ne nous aiment pas ou ne vous aiment pas. Vous voyez comment ils sont en train...
Oui, mais c'est là. Je ne sais pas si mon micro est ouvert.
Oui, il est ouvert, M. Keta. Juste, je finis ma réflexion. Vous comprenez? Et actuellement, oui. Vous le savez comme moi, mais de part et d'autre, les échanges sont violents. Il y a des montages de vidéos, de ceci, de cela. Tel a dit ça sur tel acteur, et voilà, vous qui êtes de l'autre côté. Mais ils oublient que ces problèmes d'égo-là ne vont pas sortir la Guinée de la situation actuelle. Nous avons tous intérêt à privilégier l'intérêt national. Nous qui sommes en train d'intervenir là, je connais à peu près l'état d'esprit de chacun, nous allons continuer. Vous savez, pour changer un pays ou pour le détruire, il ne faut pas des millions. Il suffit d'être déterminé et puis après, ça va changer. Ça, il faut le dire. Parce que moi, ce que je déplore, M. Keta, c'est que même ceux qui se disent, je dis intellectuels, hein, je mets ça entre guillemets, sont plus bas aujourd'hui que ceux-là qui ne sont pas instruits. Je vous dis, hein. Parce qu'ils
raisonnent exactement pareil. Je vais te donner un exemple d'actualité. Mais
oui.
Ceux qui ont adressé le message de remerciement du président de la République, et suite à la contre-manifestation. C'est des cadres, c'est des intellectuels, mais au lieu de s'adresser, d'adresser le message au peuple, ils adressent le message au RPG, aux militants du RPG et aux sympathisants du RPG. Et c'est ce qui a été cultivé depuis l'avènement de Alpha, que Alpha aurait dû changer dès le départ. C'est-à-dire que il a remarqué tout ce qui s'est passé, toutes les faiblesses du régime de l'Ancien Comté. Il a tout critiqué, il est élu, et puis désormais, quand un ministre est en mission dans n'importe quelle zone de la Guinée, quand lui-même il est en déplacement dans n'importe quelle zone de la Guinée, ce n'est pas en période de campagne, ce n'est pas les foulards du RPG que les gens doivent enfiler, ce n'est pas le jaune. C'est le président de la République qui vient, c'est le ministre de la République qui vient. Mais quand tous ces gens viennent avec leur foulard jaune, moi je suis du PDN, ou bien je suis de l'UFR ou de l'UFDG, je viens à la réception du président, je vois que tout le monde est en jaune, eh bien je m'en vais, je considère que je ne suis pas concerné, à juste titre. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est ça. Maintenant, pour revenir juste sur la... Je vais terminer par ça, sur le problème d'ethnie et la prise en otage du pays. Mais le multipartisme intégral en Guinée est parti sur cette base-là. C'est ce que Conté avait, malgré Conté, tout ce qu'on peut dire de lui, il a dit, bon, écoutez, compte tenu de la particularité de la Guinée, allons avec deux partis seulement, peut-être que ça va nous aider à résoudre en partie le problème de régionalisme, de communautarisme. Mais le contexte était tel que les leaders ne pouvaient pas s'entendre sur la question. Ça, c'est une réalité. On sait tous, on a tous eu raison. Ceux qui ont soutenu Alpha, on avait les arguments pour le soutenir en 2010, en 2009, pour son premier mandat. Mais après le premier mandat de Alpha, tous ceux qui l'ont soutenu en 2015 n'avaient qu'une seule raison, un seul langage, c'était le langage ethnique. En 2010, c'est même propre. En 2015, on a vu que le bilan, il était tellement médiocre qu'on ne pouvait pas l'exhiber. On ne pouvait pas parler de lui, on ne pouvait pas se contenter de lui. En ce moment, c'est l'ethnie. Alors qu'on a vu ce qui s'est passé en 2010, quand son adversaire au deuxième tour, les militants de ceci ont pensé qu'à eux seuls, ils pouvaient élire et Sélou. Ça n'a pas marché. Et le RPG aujourd'hui est tombé dans le même piège. Et toutes les nominations de l'actuel gouvernement, c'est basé sur l'appartenance régional. Et il faut prendre quelqu'un de Farana, il faut prendre quelqu'un de Kishidougou, il faut prendre quelqu'un... Donc si j'enlève quelqu'un de Farana, il faut que je remette un autre de Farana, ainsi de suite. Mais on ne peut pas, c'est tout sauf l'unité nationale. Donc la gouvernance, elle est ratée. Comme Ousmane a dit, c'est un échec total. Et c'est un échec, c'est tellement surprenant, comme Ibrahima vient de le dire, qu'on ne peut pas imaginer qu'on en soit là aujourd'hui avec Alpha au pouvoir. Ce n'est pas possible. Personne ne pourrait être là.
Monsieur Sissoko, ensuite je vais prendre les autres. Mais, attendez, j'ai fermé votre micro parce qu'il y avait du bruit. Et mon frère Moumini, j'ai appelé tout à l'heure, vous étiez en train d'intervenir. Aboubacar Camara m'a dit d'attendre, mais nous n'allons pas attendre longtemps. Alors, Monsieur Sissoko?
Allô, madame?
Oui,
madame. Ah, oui. Le débat est très, très intéressant. Même si on arrive à parler un peu, mais on apprend beaucoup ce qui est en train de se dire. C'est ça qu'on est en train de dire.
Oui, parce que la plupart d'entre vous, en tout cas tous ceux qui sont en train d'intervenir là, sont en train de privilégier l'intérêt national. Nous n'allons pas tomber dans le piège de ceux qui se battent pour les différentes communautés. Moi, personnellement, je refuse d'être prise en otage. Les gens pourront dire ce qu'ils voudront. J'ai supprimé pas mal de contacts actuellement qui essayent de m'envoyer des trucs. Mais moi, je ne suis pas influençable, hein. Je profite pour le dire. Je ne suis pas du tout influençable, il m'en faut beaucoup plus. Et là, je dis, même si nous ne sommes que deux à l'avenir, nous continuerons de mener ce combat-là. Et ce qui est malheureusement, ce ne sont même pas ceux qui ne sont pas alphabétisés qui posent problème, mais ce sont ceux qui se disent intellectuels qui entretiennent ce débat-là. Dès que tu parles à Bademakole, ou bien Komene, ou bien Kalofeke, Kolo, Sende, ils sont en train de faire que tous les autres sont en train de se radicaliser. Il faut dire la vérité. Et dès que un de leurs critiques, non, essaie de dénoncer les manquements, ah ça y est, lui là il a acheté, ou bien Horonte, ou bien Koniéni, ou bien non, il faut qu'on sorte de ça. Nous n'allons pas tomber dans leur piège, nous continuerons comme nous sommes en train de le faire là. Personne ne va nous influencer. Monsieur Sissoko, allez-y, puis je vais reprendre d'autres, s'il vous plaît.
Je vous remercie.
À cause du décalage horaire, nous sommes déjà avancés.
Voilà. Je vous remercie, madame. vous avez dit la vérité. On n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Vous savez, madame, il y a trois choses qui ont gâté ce pays-là. Il y a les intérêts personnels, le racisme et la démagogie. Voilà le mal de la Guinée. C'est-à-dire, tant qu'on n'arrive pas à dire la vérité, ce pays-là ne va pas changer. Mais ce que les gens oublient, la Guinée est l'un des pays les plus riches en Afrique. Mais ce que tu viens de dire, il n'y a pas un basique, il n'y a pas le miracle pour faire changer un pays. C'est la bonne gouvernance. Je vais vous donner un exemple sur un pays qui est très peu connu et on parle très rarement. Vous savez, c'est quel pays? C'est le Botswana, madame. Le Botswana, les ressources naturelles, ils n'ont que le diamant. C'est-à-dire, Botswana est le deuxième pays producteur de diamants derrière la Russie. Mais regardez, allez-y sur le classement du programme des Nations Unies pour le développement. Regardez le classement des PNUD des pays africains par l'indice de développement. Ils ont tenu compte de six caractères, madame, comme M. Keta a dit, c'est-à-dire la bonne gouvernance. C'est-à-dire, la bonne gouvernance, c'est quoi? L'absence de corruption, la bonne gouvernance, aide sociale, et choses comme on appelle ça.
L'indice de développement, c'est depuis 1990 que le PNUD, comme vous venez de le dire, le Programme des Nations Unies pour le Développement, a commencé à publier des rapports tous les deux ans, parce que avant, le classement qui était fait ne prenait pas en compte le bien-être. Vous comprenez? Le bien-être,
oui.
Il s'agit de l'accès à l'éducation, l'accès aux soins de santé. Et quand on parle d'éducation, c'est le niveau d'études, ceux qui commencent ici vont loin, c'est l'alphabétisation et puis également le PIB. Parce qu'avant, le PIB, ça c'est la croissance économique, c'était simplement basé sur la croissance économique. Et ça ne permettait pas de donner,
effectivement.
Donc ça ne permettait pas de sortir tous les aspects de développement d'un pays. C'est pour cela que depuis 1990, le PNUD, je le dis en connaissance de cause, parce que ici j'ai fait aménagement appliqué au pays en voie de développement. Voilà.
Effectivement, madame. Voilà. Donc ils tiennent compte des six caractères, comme vous venez de dire comme ça là. Donc quand vous regardez le Botswana, Botswana est le bon élève en Afrique. Et d'abord, quand vous prenez en matière de la démocratie, c'est un pays qui n'a pas connu un coup d'État, et qui n'a jamais eu la guerre là-bas. Et la démocratie, ça marche très bien au Botswana. Depuis l'indépendance en 1966, ils ont eu l'indépendance en 1966. La démocratie marche très bien, la bonne gouvernance est là. Donc, en termes d'économie, sur le plan économique, comme je viens de dire, Botswana est l'indice le plus élevé en Afrique. Ils ont un taux de croissance de 10% en moyenne pendant 30 ans. Ils ont un taux de croissance de 10% en moyenne. Donc, la bonne gouvernance, ça marche dans ce pays-là. Et que quand vous comparez le Botswana et la Guinée en matière de ressources naturelles, mais la Guinée est 10 fois plus riche que le Botswana. Mais ils ont une vision claire, la bonne gouvernance. C'est ça que ce pays-là est en tête parmi tous les pays en Afrique. C'est la bonne gouvernance, il n'y a pas de miracle. Comme M. Keta vient de dire, quand le pays est bien gouverné, tout ce qu'on a cité, les cratères là, tout est placé, donc le pays va s'en sortir. Donc ce sont les exemples que je viens de donner. Donc notre pays est mal géré, c'est ça la réalité. Si on n'arrive pas à dire cela, on a passé à côté. Quand vous avez des ministres médiocres, qu'est-ce que ces gens-là peuvent nous apporter?
Mike, qui ne peut pas intervenir là, je vais revenir à M. Kaba pour qu'on finisse.
Donc,
mais j'aimerais bien qu'on s'empésantisse. Je vais revenir à vous. Qu'on s'empésantisse sur le communautarisme. Momini Kaba, allô?
Oui, Madame Diané, par rapport au communautarisme, ce que moi je pourrais dire, c'est que aujourd'hui, avoir de près la politique guinéenne comme elle est pratiquée au pays, Il y a un défi majeur à relever. Et nul n'ignore combien de fois l'ethnocentrisme a gangréné la politique guinéenne. C'est devenu une sorte de cancer maintenant pour la politique guinéenne. Alors, lorsque vous connaissez en tout cas les symptômes de la maladie, il est très très probable que vous trouviez les remèdes nécessaires. Aujourd'hui, moi, je pense que le problème de leadership est un problème majeur. Quand je parle de leadership, celui-là qui peut unir tous les Guinéens. Et quelqu'un qui peut avoir le courage de dénoncer le piège tendu par la classe politique actuelle. Et je vais vous dire quelque chose, on va mettre en place n'importe quel plan de développement, mais si l'unité nationale n'y est pas, il serait extrêmement difficile d'aboutir. C'est mon point de vue.
Et qu'est-ce que vous proposez comme solution, M. Kaba, pour que...
Moi, je pense que la solution ne viendrait pas d'ailleurs, elle viendrait de nous-mêmes. C'est pourquoi je parlais de leadership.
Merci.
Si, en tout cas, aujourd'hui, il y a un leader charismatique qui peut venir dénoncer ce problème d'ethnocentrisme, mettre en place un projet de société qu'il pourrait vraiment avancer, essayer, à la mesure de ses possibilités, de convaincre cette élite politique guinéenne, ensuite aller vers la population. C'est une lutte de longue haleine, mais en tout cas, celui-là qui se lancerait sur cette voie, est celui-là, en tout cas, qui pourrait sauver le pays. Parce qu'on va pas dire, vous allez mettre en place les, je ne sais quel programme de développement économique. Avec la situation actuelle du pays, c'est très difficile que ça aboutisse. Très difficile. Parce que je me rappelle un peu, il faut se servir de très bons exemples souvent. Je me rappelle un peu chose d'un discours de Paul Kagame. Ce pays a traversé un génocide. Mais aujourd'hui, où est-ce que ce pays se trouve? Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir surmonter toutes les difficultés auxquelles le pays était confronté? Voilà, c'est en répondant à ces genres de questions que nous pourrons trouver les vraies solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. L'ethnocentrisme a pris des proportions inquiétantes. Pour qui veut le développement de ce pays doit se lancer dans la lutte, dans le combat contre l'ethnocentrisme. Et cela par tous les moyens. Moi, je crois que ce leader, que ce soit jeune, comme les gens le disent, on veut une nouvelle génération de politiciens. Moi, je crois qu'il ne faut pas voir là un problème d'âge, mais plutôt un problème de vision. Aujourd'hui, quand tu parles à beaucoup de nos politiciens et à leur entourage, ils te disent que, dans notre pays ici, ça, c'est pas l'Occident, mais ça, c'est très difficile. Ça ne peut pas se faire ici. Alors, avec une telle mentalité, il serait difficile d'aller dans une telle lutte, dans un tel combat avec des gens de cette mentalité et aboutir à des solutions meilleures. Donc, il faut un leader charismatique qui peut se faire entourer par des gens qui ont la même vision du pays que lui, et prendre le courage de confronter et affronter ce fléau auquel nous sommes nous dénonçons tous aujourd'hui. Je crois que c'est en tout cas une des solutions qu'il faut pour que ce pays aille de l'avant. Voilà ce que moi je pouvais dire.
Ouais, je crois que M. Keïta veut réagir. M. Keïta, allez-y s'il vous plaît. Chacun a deux minutes maintenant pour que j'arrête. Allô?
Je voulais juste... si, je croyais que mon micro était ouvert là, parce que le sujet là, il est tellement important. Moi, j'aurais voulu que ça fasse l'objet d'un autre sujet, peut-être même pour la semaine prochaine, s'il n'y a pas un événement majeur d'ici là. Allô? Allô?
S'il vous plaît.
Bon, je ne sais pas si madame vous entend, moi je vous entends en tout cas.
Ah, Monsieur Kaba, vous m'entendez?
Oui, moi je vous entends, je ne sais pas si madame vous
voilà,
entend.
Voilà, parce que tout ce que vous venez de développer là, c'est on ne peut
moi,
pas
vous, dire moi, mieux. Vous ne m'entendez pas? Vous m'entendez pas?
Voilà, bon, non, nous on t'entend.
D'accord. Aussi, allez-y s'il vous plaît, chacun a deux minutes maintenant pour qu'on puisse...
Non, moi j'aurais voulu que sur ce sujet-là, que cela... C'est-à-dire que le problème de l'ethnocentrisme en Guinée, qu'on fasse de cela l'objet d'un...
Ah oui, la prochaine fois, le thème, ça sera ça, hein, le communautarisme.
Voilà, comme ça,
parce que ce sujet,
par
il est dense, il faut qu'on en parle sérieusement. C'est ce qui bloque le pays
voilà,
là, justement.
Parce que c'est sur la base de cette question que le pays a été pris en otage. Donc, il y a à boire et à manger sur ce sujet-là. Et tout ce que nous connaissons aujourd'hui dans le pays, c'est basé sur ça. Les gouvernants surfent sur ça, l'opposition surfe sur ça. Donc, et la clé en Guinée, la clé du dénouement, c'est à ce niveau-là. Si le Sénégal n'a pas connu, le Sénégal s'en sort, le Burkina s'en sort, le Mali s'en sort, beaucoup de pays essaient d'avancer. Et en Guinée, les gens ont l'impression que non, à Nouméa, dans ce pays-là, c'est comme ça, le Guinée, il est comme ça. Ce n'est pas autre chose. C'est parce qu'on est dominé par cette mentalité ethnique. Moi, j'aurais voulu que cela fasse l'objet d'un thème.
La prochaine fois, ce sera ça, s'il plaît à Dieu, parce que c'est très important. Monsieur Keïta, je vais profiter pour dire la chose suivante. Hein. Monsieur Keïta, vous savez pourquoi l'ethnocentrisme, on parle de ça, c'est facile à éradiquer. Pourquoi? Parce que si on a des institutions fortes, si on n'a pas de problème d'ego, si on a à la tête du pays quelqu'un qui est patriote, compétent, vous comprenez, qui respecte son peuple, c'est très facile. Ce n'est même pas un problème ça. Soit c'est une question de leadership. M. Kabbal a dit c'est une question de leadership. Il faut avoir quelqu'un qui a une vision.
Tu es en train de conclure le débat de la semaine prochaine.
Bon, d'accord, je m'arrête là. Allez-y, s'il vous plaît.
Voilà. Non, moi j'en ai fini, mais ce que tu viens de dire là...
D'accord.
Ben... Voilà.
D'accord, bon. Allez, je laisse ça, sinon les gens ne viendront pas pour regarder le film. Monsieur Sissoko, juste une minute, vous allez conclure. Ensuite, je vais revenir à Monsieur Kaba. Et puis pour aujourd'hui, on va arrêter là parce que c'était tellement pertinent les différentes interventions que c'est pas la peine qu'on continue. Nous avons dit l'essentiel et c'est pour vous.
Ibrahima Traoré, il n'est plus là?
Ibrahima Traoré, non, il vient de partir.
Ah,
il y a d'autres, mais comme ils n'ont pas demandé la parole, je ne vais pas ouvrir leur micro. Monsieur Sissoko, allez-y, s'il vous plaît. Je n'ai pas ouvert son micro. Sorry.
Non, c'est bon, madame. Ah, je vous remercie. D'accord. Très bien. Le débat était très intéressant. On va revenir, vous avez dit, le
programme. La semaine prochaine. Fini,
la semaine prochaine. Vraiment, je suis très content. Je salue tous les frères. Merci, madame.
Okay. Le débat. Merci beaucoup. Alors, monsieur Moumini, l'honneur vous revient de donner votre point de vue et de conclure, s'il vous plaît. Et puis, nous allons...
Bon, madame, nous vous remercions pour nous avoir donné l'opportunité de
faire ce débat, c'est très important, car chacun a sa façon de contribuer, si vous voulez, au développement socio-économique du pays. Émettre des idées, si ça tombe dans de très bonnes oreilles, je crois que ça serait très salutaire. Comme M. Keta l'a si bien dit, et nous vous remercions et il ne faut pas que l'on prenne trop de temps pour commencer déjà sur ce débat que l'on compte mener.
Développer, ça sera la semaine prochaine, c'est promis, ça y est, on a déjà arrêté ça, s'il plaît à Dieu. Il est très important parce que nous sommes déterminés à faire en sorte que notre pays sorte du gouffre dans lequel il se trouve. Et c'est nous, personne d'autre ne va le faire, c'est nous. Et nous n'allons pas assister, nous n'allons pas être là passifs, assister, critiquer. Ce qui est malheureux, M. Kaba, je le dis encore, que les soi-disant intellectuels, vous comprenez, participent à ce genre de débat. C'est malheureux. Et moi, je le dis et je redis, personne ne me prendra en otage. Voilà, parce ouais. que chacun, nous serons jugés, hein. C'est dans très bientôt, les gens vont savoir qui est qui. Et vous allez entendre les mêmes aujourd'hui qui racontent n'importe quoi, dit « Ah, nous n'avions pas le choix, qu'est-ce que vous voulez, comme vous l'avez si bien dit, le régime était tel que nous étions obligés de consommer, d'accepter comme ça. » Non, mais c'est faux. Personne n'est obligé d'accepter.
Ouais.
On dit « Tiens, qu'on y qui baïda, faut qu'on n'te, kadikadi, n'te. » Voilà. N'te, kadikadi.
Voilà.
Monsieur Kaba.
Ouais. Merci, Madame Fong.
Monsieur Keta.
Merci.
Franchement, un grand merci à... Oui, Monsieur Keta, je crois que vous êtes en train de dire quelque chose, oui?
Non, je dis merci Marie. Vraiment, à la prochaine encore.
Vraiment, enfin, grand merci à vous tous. Et à la semaine prochaine. Et le thème, déjà, vous le connaissez. Commencez à réfléchir sur ça. Et c'est vraiment... Le sujet le plus important, il faut le dire. Hein? Quand il n'y a pas de bonne gouvernance, les gens ils vont nous raconter des salades et personne ne nous prendra en otage. Nous, nous disons non. Nous allons combattre cette façon de gérer le pays. Voilà. Grand merci à ces grands
Madame
débatteurs.
Gamay.
Oui.
Madame Gamay, je voudrais savoir si Doyen Kaba Kamara est là, bon, s'il pourrait être disponible samedi prochain.
Il a un programme. Il était avec nous les deux dernières fois. Il a un programme, il me l'a dit. Donc, vous avez son bonjour, il n'y a pas de souci.
Okay.
Je vais vous appeler hors antenne, s'il plaît, à Dieu.
Merci bien.
Voilà, merci aux uns aux autres et à la semaine prochaine pour parler de l'ethnocentrisme qui est en train de nous... Hein? Voilà.